La Voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30, TU.
Rebonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Sedouya pour ce second bulletin d'information de la soirée. Le bilan de l'attaque contre une base des Nations Unies au Soudan du Sud s'établit maintenant à 58 morts et à plus de 100 blessés. Selon des officiels onusiens, beaucoup des victimes sont des nuers qui s'étaient réfugiés sur la base à bord après le début des hostilités dans le pays l'an dernier. Les assaillants armés manifestaient devant la base, disent des témoins, avant de prendre d'assaut le camp. Mais le ministre sud-soudanais de l'information accuse les casques bleus d'avoir provoqué l'attaque en tirant en l'air. Au Nigeria, le nombre de lycéennes ayant réussi à s'échapper, à échapper à leurs ravisseurs, s'établit maintenant à 44 et 85 sont toujours portées manquantes, ont dit aujourd'hui les autorités. Le kidnapping a eu lieu lors d'un raid lancé par des hommes armés lundi sur une école secondaire dans le nord-est. Hier, le principal du lycée avait dit que les filles s'étaient évadées en sautant des véhicules des ravisseurs ou en s'échappant du camp où elles étaient retenues par, pense-t-on, des éléments présumés de Boko Haram. Par ailleurs, et selon l'AFP, Boko Haram a revendiqué un attentat à la bombe qui a fait lundi 75 morts à Abuja, la capitale. En Ukraine, le gouvernement annonce une pause dans ses opérations pour chasser les militants pro-russes des bâtiments qu'ils occupent dans l'Est. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette pause est due à la fête de Pâques, mais donnera aussi un peu plus de temps aux observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour s'organiser. Celle-ci avait en mars lancé une mission spéciale d'information sur la sécurité et les droits de l'homme en Ukraine. Elle doit aussi aider à relancer le dialogue dans le pays. D'autre part, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que rien ne devrait entraver la normalisation des relations entre la Russie et l'Ouest, ajoutant que cela ne dépend pas seulement de la Russie, mais aussi de l'Ouest. En Corée du Sud, la police a officiellement arrêté le capitaine et deux membres d'équipage du ferry qui a fait naufrage mercredi. Ils sont accusés d'avoir déserté ses passagers peu après l'accident. Selon des témoins, le capitaine était l'un des premiers à abandonner le bateau qui avait 476 personnes à son bord, la plupart des lycéens. On confirme la mort de 32 d'entre eux et 270 sont toujours portés manquants. Mais on est de plus en plus pessimiste quant à leur survie. Le capitaine, selon l'agence Yonhap, aurait ordonné aux passagers de ne pas bouger de leur siège pendant le naufrage. Au Népal, les secouristes ont retrouvé un 13e corps dans la neige aujourd'hui, après l'avalanche la plus meurtrière de l'histoire de l'Everest, le plus haut sommet du monde. Trois guides sont portés disparus et une centaine d'alpinistes bloqués au-dessus du site de l'accident. Trois guides ont été blessés. Quatre journalistes français retenus en otage depuis presque un an sont maintenant libres. Dans une déclaration, le président François Hollande a dit avoir appris avec un immense soulagement ce matin la libération de nos quatre confrères. Les quatre journalistes portés disparus en juin ont été retrouvés par des soldats turcs à la frontière syrienne, ligotés et les yeux bandés. Le président Barack Obama a signé hier une loi empêchant un diplomate iranien de servir en tant qu'ambassadeur aux Nations Unies. La loi concerne tout ce qui pose une menace à la sécurité nationale des États-Unis, mais particulièrement dans ce cas Hamid Aboutalebi, accusé par les États-Unis d'avoir fait partie du groupe d'étudiants qui a occupé l'ambassade américaine à Téhéran en 1979 et pris en otage 52 diplomates américains pendant 444 jours. Les États-Unis ont refusé de lui donner un visa. Il avait été choisi par Téhéran pour représenter à l'ONU son pays à New York.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique.
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge. Alors que les femmes, les enfants, les personnes âgées et handicapées, entre autres groupes vulnérables en Centrafrique, continuent d'être les principales victimes d'une grave crise sécuritaire, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté récemment une résolution autorisant le déploiement d'une force de paix, la MINUSCA, qui sera composée de quelque 12 000 casques bleus. Quelques heures après le vote du 10 avril dernier, j'ai joint à Bangui la ministre Gisèle Bédan, porte-parole du gouvernement centrafricain. Écoutons-la.
La réaction première, c'est un soulagement. C'est une très très bonne nouvelle et nous pensons que c'est un début de solution puisque cette force sera déployée sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est effectivement un début de solution au retour de la sécurité.
Alors qu'est-ce que vous pensez du délai du 15 septembre et notamment de la transformation de la MISCA vers la MINUSCA ?
Alors du délai, c'est certain que c'est peut-être là qu'il y a une petite inquiétude. Nous nous disons que c'est peut-être un peu loin. Mais bon, déjà, nous sommes satisfaits de ce que la résolution a été adoptée. C'est ce qui avait été demandé. Donc, la France a relayé la position de notre présidente et cela a été écouté. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir. Peut-être dire que ce sera l'occasion pour le pays de commencer à panser ses plaies.
Vous êtes donc ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Est-ce que vous pensez que, à travers cette résolution, parce qu'il y a un paragraphe tout de même qui est prévu pour soutenir un petit peu justement la Centrafrique au niveau des salaires de certains fonctionnaires, est-ce que vous pensez que cela va être profitable ?
Certainement, c'est-à-dire que il faudra de toute façon que les Centrafricains s'approprient eux-mêmes leur avenir. Mais ce soutien au niveau des salaires est nécessaire le temps que la machine économique redémarre. Et c'est ce à quoi s'appelle le gouvernement. Donc une aide pendant ce temps-là est tout à fait nécessaire. Oui.
Et les universités, les écoles, etc., Madame la Ministre, aujourd'hui, est-ce que ça a pu redémarrer ou pas ?
Nous avons amorcé un début de reprise. Les choses se poursuivent. Tous les instituts ne sont pas réouverts. Toutes les écoles ne sont pas réouvertes, notamment dans les zones où il y a encore quelques poches de conflit. Mais globalement parlant, pour ce qui est de l'enseignement fondamental 1 et 2, des dernières études que nous avons commandées, nous sommes à 70% de réouverture des écoles. L'université a repris, sauf certains instituts, pour certaines raisons d'organisation, mais tout est en train de se mettre en place.
Merci beaucoup, Madame la ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement centrafricain.
Merci bien, c'est moi qui vous remercie.
Parole de femme.
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec une invitée en ligne, la ministre d'État en charge du développement rural en Centrafrique, Marie-Noëlle Andé-Koyara. Madame la ministre, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, vous avez lancé la campagne agricole en Centrafrique. On connaît la situation dramatique de votre pays. L'agriculture, surtout l'agriculture vivrière, est complètement dévastée. Donc, récemment, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial ont appelé à une vaste opération humanitaire de longue durée en Centrafrique. Alors, vous êtes concerné par cela, vous travaillez avec la FAO. Pourriez-vous nous dire dans un premier temps dans quel état se trouve l'agriculture dans votre pays ?
Vous savez, l'agriculture dans notre pays, la situation que nous connaissons n'est pas due que à cette crise. La crise est venue aggraver la situation, mais la priorité qu'on devait accorder à l'agriculture et au monde rural n'a pas occupé vraiment sa place. Maintenant, la crise est venue compliquer la situation parce que d'une part, il y a les problèmes d'insécurité, d'autre part, il y a le cumul de ces mauvaises années agricoles. Mais avec le PAM, la FAO, nous avons réussi ensemble à élaborer une stratégie pour faire passer le message comme quoi, en mettant l'accent sur l'agriculture, on évite la famine, mais aussi, on peut créer de l'emploi pour les jeunes. On peut ramener des revenus pour les agriculteurs qui sont dans des situations très vulnérables. D'ailleurs, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, la présidente de la République avait dédié une journée spéciale pour les femmes rurales. Et plus de 11 préfectures sur les 16 étaient représentées pour venir exposer des produits de leur activité agricole. Donc, nous n'avons pas encore perdu les fondements. Mais il faudrait qu'il y ait une réorganisation et l'agriculture est au centre de nos priorités pour la relance des activités économiques.
Est-ce que dans votre campagne agricole, il y a des projets spécifiques justement qui s'adressent aux femmes, qui permettent une aide aux femmes, notamment dans le domaine des microcrédits ou autres ?
Oui, je peux d'abord vous mentionner que nous avons fait notre lancement agricole en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons fait ce qu'on appelle une préparation stratégique de la campagne. Considérant le fait que cette année agricole, qui est justement dans une crise, ne sera pas une année normale comme les autres années, parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qu'il va falloir mettre en place. Et dans un deuxième temps, nous allons faire le lancement effectif dans une région qu'on appelle le Mbaïki, une de nos préfectures Mbaïki à 150 km de Bangui, en présence des autorités, des quelques membres du gouvernement, des ambassadeurs et puis les agents du système des Nations Unies. Et c'est là que nous allons faire le lancement officiel. Dans tous les projets, je peux vous dire qu'avec l'appui des partenaires et puis aussi des agents du système des Nations Unies, nous tournons autour d'au moins 40 millions de dollars. Et sur ce montant, au moins la moitié sera orientée vers les activités exercées par les femmes pour leur permettre d'abord d'assurer leur autonomisation et d'autre part de participer activement à l'alimentation de leur famille, mais aussi d'avoir un revenu qui va leur permettre de répondre valablement à la contribution aux activités de développement de leur pays. Donc, je vous réponds qu'effectivement, au moins la moitié de ces financements vont être orientés vers des activités pour les femmes du milieu rural. Mais puisque nous travaillons sur les chaînes de valeur, ça prendra en compte aussi des femmes qui vont assurer, par exemple, la transformation, la commercialisation et éventuellement certains aspects tels que la réhabilitation des infrastructures pour permettre à ces femmes d'avoir de très bons produits qui peuvent être placés sur le marché et en même temps de s'alimenter.
En ce qui concerne la visite récente de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui finalement a bien précisé, hein, et je le cite, il a dit « Je me suis arrêté à Bangui avant d'aller au Rwanda pour une raison, je veux que le monde sache ce qui se passe ici ». Alors, il a également parlé, c'est ses termes, hein, d'épuration ethno-religieuse. Hein, il a dit que c'était une réalité. Il a dit « La communauté internationale a fait défaut au Rwanda il y a 20 ans et nous risquons de ne pas en faire assez pour les Centrafricains aujourd'hui ». Ceci dit, le parallèle est très clair. Hein, on commémore ce mois-ci le génocide rwandais. Et donc, d'ailleurs, il s'est rendu après donc, au Rwanda. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Parce qu'on a vraiment ce sentiment-là qu'il se passe quelque chose de très grave dans votre pays. Madame la ministre, vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Qu'est-ce que vous comprenez ?
La déclaration du secrétaire général, aussi bien en langue, parce qu'il a fait une déclaration aussi en langue sango, en notre langue, qui est une langue d'unité. La RCA fait partie des rares pays au monde où il y a une seule langue qui est parlée par tout le monde au-delà du français. Il a utilisé cette langue d'unité pour nous montrer que les Centrafricains doivent rester unis et forts devant cette crise. Au début de la crise, malgré les différents appels, la communauté internationale n'a pas réagi. Il a fallu, je crois, plus de 7 ou 8 mois après pour que nous ayons les premières tentatives timides confirmées que la situation en Centrafrique est préoccupante et il fallait nécessairement venir au chevet de la RCA. Mais aujourd'hui, nous savons que le monde, comme on le dit, est un village planétaire. Un Centrafricain qui tombe, c'est une personne en moins dans ce village planétaire. Allons vers la paix. Donnons-nous la main. Il y a une image qui frappe tout le monde. C'est quand on voit l'archevêque de Bangui avec l'imam de la mosquée faire le tour du monde pour parler, cela montre bien que ces deux chefs religieux cohabitent ensemble, vivent ensemble, mangent ensemble. J'ai eu l'occasion de représenter Madame la Présidente à une journée des femmes pour lancer un mot d'ordre au retour à la paix. Il y avait autant de femmes musulmanes que chrétiennes qui étaient là, qui se sont donné la main, qui ont dansé ensemble. Il faudrait que nous puissions ensemble aider à ce que cette initiative de vivre ensemble vienne le plus rapidement possible dans ce pays. Avec tous ces fonds qui ont été mobilisés, nous avons des possibilités au moins d'équiper 150 000 ménages, y compris des jeunes, avec des kits qui vont leur permettre de reprendre les activités agricoles et à travers ces activités agricoles de reprendre leur dignité d'homme, de retrouver à manger et d'avoir de l'argent pour ses besoins sociaux.
Voilà, Madame la ministre d'État en charge du développement rural, Marie-Noëlle Andé-Koyora. Bah, c'est sur ces paroles, hein, ces paroles de dignité, en effet, retrouver sa propre dignité que nous allons nous quitter, Madame la ministre. Merci beaucoup.
Au revoir, je vous remercie également.
Entre parenthèses.
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique et à présent, je me tourne vers une autre invitée en ligne, une centrafricaine également, Marie-Reine Hassen, femme politique centrafricaine, ex-ambassadeur et qui a occupé diverses fonctions ministérielles au sein du gouvernement centrafricain. Madame, bonjour.
Bonjour et merci à vous de m'avoir invitée.
Alors, vous êtes actuellement en France et vous avez annoncé il y a quelque temps que vous aviez l'intention de vous présenter à la prochaine présidentielle en Centrafrique. Qu'est-ce qui finalement vous incite à vous présenter à nouveau ?
Ce qui m'a retenu un peu, c'est en fait la situation catastrophique du pays et le désastre qui s'y déroule depuis et surtout tous ces massacres, tous ces morts. Et le fait que ça ne s'arrange pas. Et plus on avance dans le temps, et plus ça s'aggrave. Donc je me suis dit, en fait, c'est indécent, quelque part, et c'est inhumain, dans le sens figuré, évidemment, de marcher sur le cadavre de mes compatriotes pour aller me présenter à des élections qui, de toute façon, ne vont pas pouvoir connaître une bonne organisation pour pouvoir se dérouler. Donc j'ai trouvé ça indécent. Et puis finalement, comme tout le monde avance dans ce sens-là, et que nous avons vu qu'au Mali, même si les conditions n'étaient pas là pour aller à de bonnes élections, les élections ont été forcées quand même. Ils sont allés à des élections et sans que le problème profond ne soit vraiment réglé. Donc en Centrafrique, il se peut que la même chose se fasse, malheureusement. Hein. Mais je me suis dit, si la communauté internationale décide malgré tout d'aller aux élections, eh bien, il vaut mieux que j'avertisse dès maintenant que je serai candidate. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. En République centrafricaine, depuis quelques décennies, il y a ce phénomène, en fait, qui fait que de dirigeant en dirigeant, en fait, de président en président, les personnes qui arrivent au pouvoir gèrent le pays comme si c'était une affaire personnelle.
Vous avez été mariée sous la contrainte, ça s'appelle un mariage forcé, il me semble, à Bokassa.
Oui, en fait, c'est une histoire qui est très très longue, dont j'ai déjà parlé en long et en large à plusieurs occasions et qui fait partie en fait de l'histoire de la République centrafricaine. Mm-hmm. Parce que comme vous avez vu dans ma biographie, mon père était également le secrétaire général à la
Clément présidence Hassen.
De
mm-hmm.
la République et le conseiller de l'ancien président David Dacko. Et en fait, en résumé, c'est une très longue histoire. Disons que j'ai été la victime collatérale d'affaires d'adultes et d'affaires politiques. Donc ce sont des choses qui se sont passées entre mon père et Bokassa. Mon père donc qui était non seulement au service de David Dacko, qui travaillait avec le président David Dacko. Je ne reviens pas sur Bokassa, tout le monde sait comment il a géré la République centrafricaine. Mon père a été donc une des victimes de Bokassa, puisque au coup d'État, il a été mis en prison. Il y est resté quand même 5 ans et demi, presque 6 ans, au bout desquels il a été libéré et nommé immédiatement à son poste d'avant son incarcération. C'est-à-dire qu'il est devenu donc le secrétaire général à la présidence de la République pour Jean-Bédel Bokassa. Évidemment, il n'était pas heureux de rester là et de faire cela parce qu'il n'avait qu'une seule envie, c'était de repartir, de rejoindre la France et son ministère d'origine. Mais c'était une dictature, donc il ne pouvait pas faire cela. Et il a profité tout simplement d'un voyage, d'une mission à l'extérieur et à Paris. Il y est resté, il n'est pas rentré. Bokassa donc a pris ça vraiment à cœur. Donc ma famille, c'est-à-dire ma mère et nous, les enfants, nous avons été frappés d'une interdiction de sortie du territoire.
Et vous avez été emprisonnés également ?
Oui, c'est ça. Nous avons été bloqués donc à Bangui. Le temps a passé un peu. Quelques temps après, donc, j'ai été sollicitée en fait par Jean Bedel Bokassa, qui a commencé à me faire la cour. Ma mère, ayant compris cela, a décidé de me soustraire à ça. C'est que ma mère a décidé de s'enfuir. Nous avons été arrêtés dans une localité qui s'appelle Boire, ramenés donc à Bangui, présentés en Conseil des ministres. Donc les ministres qui étaient ceux de Bokassa à l'époque s'en souviennent très bien, de cette femme avec ses enfants en rang d'oignon, du plus grand au plus petit, on était 7. Hein, le plus petit était tout bébé. Et donc, ma mère s'est fait engueuler par Bokassa en conseil des ministres, devant tous les ministres, qui avaient tous la tête basse, hein, et personne ne pouvait évidemment protester. Et là, nous avons été embarqués donc, en direction de la prison sur ordre de Bokassa. Nous y avons passé 2 ans, ma mère et moi d'un côté, donc dans le quartier des femmes, et puis mes frères donc dans le quartier des hommes. Heureusement qu'il y avait la séparation entre les prisonniers politiques, parce qu'il y avait beaucoup de prisonniers politiques à ce moment-là, et puis les prisonniers de droit commun. Voilà l'histoire. Et moi, j'ai été donc retirée de là une nuit, 2 ans après, et j'ai bien compris que cette fois-ci, c'était du donnant-donnant, c'était la liberté de ma famille contre ma personne.
Hein. Si vous êtes de 64, donc, vous aviez 12 ans
13, 14 ans à ce moment-là. Donc j'ai été sortie de là de nuit et j'ai compris cela. C'est comme ça que je suis devenue sa femme. Et donc ma famille a été sortie une semaine après. Bon, c'était clair que s'il y avait encore un refus, on me ramenait en prison et on pouvait nous faire disparaître à ce moment-là parce qu'il y avait une amitié forte entre Bokassa et Giscard d'Estaing. Et donc on pouvait nous faire disparaître sans aucune réaction de la France. Hein.
Et donc, vous avez vécu dans cette situation pendant 2 ans, c'est cela
juste... Pendant 2 ans, oui, c'est ça. Avec ma mère et avec mes frères et sœurs, oui.
Mais comment vous avez vécu cela ?
Dans cette prison, il y avait des bas-flancs et donc on dormait sur des bas-flancs en bois. Il y avait également des cellules au fond de la prison qui étaient l'antichambre de la mort. Il s'appelait d'ailleurs d'un nom très lugubre. On l'appelait N'Golo Aka. Et mon père, donc, qui était dans cette prison déjà, nous avait raconté tout cela quand il est sorti de là. Qu'il a fait un tour également dans cette antichambre de la mort où on fait transiter les personnes qu'on va aller exécuter sur le mur du fond. Et ça nous est arrivé à ma mère et moi. Donc une fois, on nous a sortis de la cellule principale qui est à l'avant de la prison pour nous emmener dans ces antichambres de la mort. C'est très bas, c'est de la tôle. Vous imaginez l'Afrique quand le soleil frappe très fort, et ben on peut en mourir hein, de déshydratation. Les murs sont très étroits et on a vécu ça pendant un mois et demi. On a vécu dedans en pensant en fait qu'on transitait et qu'on transitait par là pour aller nous exécuter parce que c'était comme ça que ça se passait. Et au bout de ça, on nous a quand même ramenés dans la cellule principale. Et on était un paquet d'os. Donc j'ai vécu ça, effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire ?
Mais vous avez vécu ça. Alors vous avez vécu cela,
oui.
Si jeune, avec votre famille. Puis c'est l'histoire de toute une famille, ça.
Oui,
et après, on vous sort de prison et on vous marie de force à un homme qui n'est pas n'importe qui, hein, mais qui a 43 ans de plus que vous. Comment vous avez vécu cela, Madame Hassen ?
Dans un premier temps, je me dis... Il faut que ma famille s'en aille, parce que c'est l'enfer, vous voyez. On a vécu l'enfer quand même pendant 2 ans. Pour moi, il fallait que ma famille s'en aille. Donc j'ai bien compris que j'étais un otage hein, dans cette affaire-là, qui était une double vengeance hein, contre mon père qui a refusé de travailler avec le dictateur et contre ma mère qui a tenté de s'enfuir avec nous. Il a bien fallu que j'accepte et je n'avais pas le choix. J'ai effectué des tentatives de suicide et là, quand on m'a extrait de prison, c'était évident qu'il fallait que je me soumette Donc c'était une soumission forcée. On comprend, donc on arrête de se débattre, on arrête de refuser et on se dit voilà, c'est un sacrifice qu'il faut faire, on le fait. Après donc ce mariage civil qui a été organisé et dont le président David Daco a été le parrain, à laquelle cérémonie d'autres ministres étaient présents. Évidemment, c'était quelque chose qu'il a voulu grandiose parce qu'il aime bien les choses grandioses, avec calèche, cheval, avec d'ailleurs le président Bozizé qui était son aide de camp. Donc, ma famille est partie en France et moi, j'ai vécu encore 2 ans, donc recluse, parce que j'étais pratiquement prisonnière encore, même si c'était dans le palais de la Renaissance que je vivais, dans l'aile gauche, mais j'étais prisonnière, voilà. Je ne sortais pas, ou alors très rarement, mais sous surveillance, etc. Donc, j'ai rejoint ma famille 2 ans après. Après avoir simulé la folie, parce que j'ai appris qu'il avait, s'il avait bien peur de quelque chose au monde, c'était des maladies mentales. Donc lorsque j'ai compris ça finalement, de la bouche d'une des femmes militaires qui était là pour me tenir compagnie et me garder, donc je me suis dit voilà, c'est ça ma porte de sortie, je vais devenir folle et je sortirai de là.
Vous vous êtes enfuie ?
Je n'ai jamais réussi à m'enfuir, puisque à chaque fois, quand j'ai fait des tentatives, on me rattrapait, évidemment. Donc, je suis devenue folle. C'est-à-dire qu'on a fait venir toutes sortes de guérisseurs, des pygmées, des tribus assez reculées. Donc, j'ai eu des scarifications, j'ai bu des potions, on m'a mis des choses dans les yeux. Donc, j'ai dû subir tout ça, mais évidemment, je restais folle, hein, ça ne me guérissait pas. Donc il a fini par me remettre à mes oncles. J'avais 2 oncles, hein, Bernard Ayandeau, qui a toujours été ministre donc en République centrafricaine, et un autre oncle un peu plus âgé, Kota Limbora. Donc on m'a remis à ma famille en disant « bon ben voilà, elle est foutue, elle est inguérissable ». Et donc mes oncles m'ont mis dans l'avion sous sédatif. Et lorsque je suis arrivée à l'aéroport ici, donc mon père m'attendait, prêt à m'emmener à Sainte-Anne ou je ne sais dans quel hôpital. Et puis bah, j'ai dû lui dire voilà, que c'est finalement je vais très bien, que tout va bien. Mais on m'a quand même éloignée de Paris, hein, pendant plusieurs mois, très très loin à Morsang-sur-Orge, où je suis restée plusieurs mois dans la crainte en fait qu'il se rende compte de la supercherie et qu'il envoie ses sbires me récupérer ici. Donc il fallait pas que je reste chez mes parents à Paris. Je me suis retrouvée donc très très loin de Paris pendant plusieurs mois.
Mais vous revenez de loin, hein. C'est un cas vraiment très particulier ce qui vous est arrivé, mais des dizaines de milliers d'enfants, de filles sont dans ce cas-là, oui. Plus ou moins, c'est en ça, Afrique. Est-ce que cette cause-là, la lutte contre le mariage forcé, est importante pour vous ?
Oui, mais pour moi, ce qui est surtout important au niveau de la République centrafricaine, ce sont les violations des droits de l'homme. C'est l'une des raisons qui me pousse également à me battre pour pouvoir arriver à gérer ce pays-là et à le gouverner correctement, à ramener la justice, à protéger les femmes et les enfants. Parce que ce qui est arrivé à ma mère et à nous autres enfants n'aurait jamais dû arriver, ne serait jamais arrivé dans un pays civilisé. Et donc tout cela, c'est le résultat d'une dictature qui fait qu'il n'y a évidemment pas de respect de droits de l'homme, pas de respect du droit de la femme, et encore moins des enfants. On ne jette pas une femme avec ses enfants comme ça en prison. Donc c'est surtout la violation en fait des droits humains qui est terrible en Centrafrique, et aujourd'hui c'est encore pire qu'avant, parce que à chaque fois qu'il y a un coup d'État, à chaque fois qu'il y a un déferlement de rébellion et autres, eh bien ce sont les enfants et les femmes qui sont les premières victimes, parce que les femmes sont violées, les enfants sont violés, donc il n'y a pas de justice dans ce pays-là. C'est l'impunité totale, et c'est l'impunité qui a mené ce pays dans le gouffre. Et c'est tout cela qu'il faut changer totalement, il faut une rupture totale.
Marie-Reine Hassen, femme politique centrafricaine, effectivement, les droits humains, c'est quelque chose d'important, surtout quand on revient de loin comme vous. Merci beaucoup pour cet entretien téléphonique.
Merci à vous.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, you're right.